Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. On s'en va maintenant joindre Michel Poitvin. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Alors Michel, c'est dans l'actualité partout et vous en parlez évidemment, c'est un sujet important. L'Iran et les États-Unis qui ont signé une entente devant mener à la fin de la guerre. Mais parlez-nous un peu plus des impacts nous concernant. Là. En quoi serons-nous touchés?
Bon, la première chose qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est le prix du pétrole. On en a amplement parlé là, depuis le début de la guerre. Pour vous donner une idée, hier, puis aujourd'hui, je pense un petit peu plus bas, le prix du baril est gravite autour de 80 $ américains. Et pendant la guerre, à un moment donné, il a monté jusqu'à 130. Là. Alors, par contre, avant la guerre, il était à 60. Donc là, on a baissé, mais on n'est pas revenu à la situation pré-guerre États-Unis-Iran. Puis le prix à la pompe, je pense, autour de 1,80. On est monté en haut de 2 $. Mais avant la guerre, on était à 1,50 le litre. Est-ce qu'on va y retourner? Là? On a baissé, mais est-ce qu'on va retourner à la situation avant la guerre, vu que c'est réglé ou en fait? Il y a une démarche entreprise pour la régler, là, parce que ça n'a pas l'air d'être une entente de paix définitive. Ça fait juste ouvrir la porte à une possible future entente. Ça va être à suivre. Tout ce qu'on sait, là, même s'il y avait une entente, demain matin, ça va être long. Il y a des milliers de navires qui sont bloqués là, en amont du détroit d'Ormuz. Puis ça prend du temps à évacuer. Là. C'est pas comme si on ouvre le robinet et ça coule à flot. Là.
Ouais.
Des bateaux, ça peut prendre des mois à libérer la congestion qu'il y a là. Puis aussi, j'avais pas vu ça avant, j'ai lu dans un article, je pense que c'est sur le site de Radio-Canada, intéressant, le long blocage des bateaux dans le détroit qui était immobilisé amène son lot de complications, notamment des infestations de petits crustacés là, qui s'agglutinent sur les coques des navires. Puis évidemment, il faut que ça soit nettoyé avant qu'il puisse repartir. Donc ça, c'est juste comme un détail, là, mais ça nous montre que ce n'est pas si évident. Et puis même si après quelques mois, les navires quittent, une question, c'est est-ce qu'ils vont retourner? Parce qu'une fois qu'ils sont vides, est-ce qu'ils vont aller retourner chercher du pétrole? Peut-être anticipant que la guerre, si la paix ne dure pas, qu'ils restent encore coincés pendant des mois au fond du détroit. Alors, donc, vous voyez, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui fait qu'on n'est pas revenu à la situation avant-guerre. L'autre facteur, c'est que pour atténuer les hausses du prix de pétrole pendant la guerre, plusieurs pays qui ont ce qu'on appelle des réserves stratégiques, qui ont des gros stocks de pétrole qui gardent le pétrole, c'est durable, là, donc... Justement pour faire face à des crises. Mais là, comme le prix est élevé, il y a plusieurs pays qui ont diminué leurs réserves. Là. Ils ont laissé leurs réserves disponibles sur le marché pour que les prix n'augmentent pas aussi vite. Mais là, avec la fin du conflit, les pays vont vouloir regarnir leurs réserves. Mais ça, regarnir, ça veut dire que c'est une demande accrue pour le pétrole. Puis ça, les prix sont pareils de baisser. Et puis finalement, les infrastructures qui ont été détruites, là, en rétaliation, je pense que c'est un anglicisme, là, mais les Iraniens ont riposté aux frappes américaines en frappant des infrastructures pétrolières dans les pays du Golfe.
Ouais.
Puis ça, ben, c'est pas à veille d'être réparé. Et puis ça veut dire que la production de pétrole ne retrouvera pas son niveau normal là, avant des mois et des mois. Donc tout ça, ça nous fait un contexte là, où les prix pourraient, même si on a une légère baisse en ce moment, il y en a qui, certains experts qui disent que ça pourrait réaugmenter cet été ou à l'automne.
Bon, alors il ne faut pas se faire trop d'illusions pour l'instant.
C'est ça. Peut-être qu'on peut avoir des réserves. On n'est pas équipé pour avoir des réserves stratégiques comme les pays, mais ça pourrait être
Et si on parle du prix de l'essence, j'imagine que le prix des billets d'avion est affecté.
Oui, on pense à l'essence, ensuite on pense au transport aérien. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une flambée des prix en avril. Le prix des billets d'avion a beaucoup augmenté. Puis là, la demande a vraiment chuté. Puis les compagnies aériennes avaient déjà commencé à s'ajuster, à baisser leurs prix, même s'ils faisaient un peu de perte. baisser leur prix là, pour ne pas perdre toute leur clientèle. Ouais. Donc, on ne peut pas s'attendre, je pense, à ce qu'il y ait de nouvelles baisses importantes, là, disons, dans les prochains mois. Donc, il y avait un monsieur Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bon, peut-être qu'il prêche pour sa paroisse, mais il avait l'air de dire que c'est pas évident, que c'est une bonne stratégie de dire d'attendre pour acheter son billet. Là. Il n'entrevoyait pas des chutes importantes des prix là, dans les prochains mois.
On est porté à faire confiance quand même, hein? C'est assez logique.
C'est ça. Il a quand même mis son nom sur sa déclaration, il l'a assumé.
Ouais.
Le prix de l'énergie, évidemment, affecte d'autres secteurs. L'alimentation, est-ce que les prix des aliments vont baisser? Ben, un endroit où le prix du pétrole affecte le prix des aliments, c'est à travers les engrais. Puis les engrais, le prix des engrais avait beaucoup augmenté, puis ils ont déjà été utilisés. Là. Donc déjà, ça a coûté plus cher. Alors, peut-être le transport, le coût du transport va baisser un petit peu. Mais il y a quand même la portion engrais qui est là. Donc, on n'anticipe pas de grosses baisses là, au niveau de l'alimentation. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder, la semaine dernière, on disait que la Banque du Canada était pour annoncer un nouveau taux directeur, je pense, le lendemain de la chronique, mercredi dernier. Bon, on avait décidé de maintenir les taux à 2,25 la semaine dernière au Canada. Il va y avoir une annonce semblable aux États-Unis demain. Puis peut-être rapidement une petite mise en contexte. Depuis le début de la présidence de Trump, il était en guerre contre le directeur de la Banque fédérale, la Banque centrale américaine, Jerome Powell, parce qu'il trouvait qu'il ne baissait pas les taux assez rapidement. Puis on peut noter que Jerome Powell avait été nommé par Trump lors de son premier mandat.
Mais en tout cas, chercher l'erreur.
C'est ça. Donc, il trouvait que Jerome Powell ne baissait pas les taux assez vite, mais en même temps, Trump ne s'est pas trop aidé avec ses tarifs puis la guerre en Iran qui a un effet sur l'inflation. Puis le mandat de Powell a pris fin en début d'année. Et puis le 22 mai, un nouveau directeur-gouverneur de la Fed a commencé. C'est Kevin Warsh qui a été nommé par Trump. Puis lui, on anticipe qu'il a la réputation là, qu'il était partisan d'une baisse de taux plus rapide que ce qui s'est fait. Et puis là, il y aura une réunion cette semaine, puis demain, il devrait avoir une annonce, mais le pauvre monsieur, il est pris. Là, il aimerait ça baisser les taux, mais l'inflation a monté à 4,2% aux États-Unis pour le mois de mai, alors qu'il était à 3,8%. L'inflation était à 3,8% en avril.
Il est pris entre l'inflation et Trump de l'autre côté qui veut que ça baisse.
C'est ça. Donc là, il est comme un petit peu pris. Là, il y a la fin de la guerre. Est-ce que ça va lui ouvrir une porte, dire « Ah, mais la fin de la guerre, l'inflation va baisser, on peut baisser les taux. » Les experts pensent qu'on va maintenir les taux. Là, aux États-Unis, c'est une fourchette de taux. C'est pas un chiffre comme chez nous. Donc, la fourchette est entre 3,5 puis 3,75. Puis on pense qu'il va les maintenir demain, puis peut-être des baisses là, si l'inflation est réduite en fin d'année, mais pas pour le moment.
Bon, alors, on va en savoir davantage demain, évidemment.
Exactement.
On va passer à ce monsieur qui s'appelle quoi? Warsh?
Oui, Kevin Warsh, il y a un R, c'est pas Warsh, là,
non,
c'est
non.
W-A-R.
C'est pas Warsh, c'est Warsh.
Warsh,
okay.
C'est ça.
Et l'Institut CDI, là on change de sujet, là.
Oui.
C'est l'Institut CDI-How qui publiait hier le palmarès des villes canadiennes pour leur transparence en ce qui concerne les exercices financiers.
Oui, l'Institut CDI-How, c'est un organisme indépendant, là, un institut de recherche économique surtout là, indépendant. Ils sont connus, entre autres, pour le palmarès des écoles, etc.
Ils ont donné des bulletins là, aux villes.
Là, ils donnent des bulletins aux villes, mais pour la transparence des exercices financiers. Donc, ce n'est pas un bulletin de gestion financière comme tel, mais est-ce que leurs exercices, les états financiers, l'information financière qu'ils donnent, est-ce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe? Bonne nouvelle pour la ville de Québec, est en première place avec quatre autres villes, dont Vancouver et Saskatoon, avec la note A-. Ça, c'est le palmarès pour 2025. Ensuite, on a Ottawa à B+, Laval à C+, Longueuil, C-, Toronto, D+,
oh.
Puis Montréal et Gatineau en queue de peloton là, avec une coupe d'autres villes là, avec F. F, c'est la pire note. Là. On est vraiment dans la cave à Montréal. C'est un peu désolant. C'est sûr que comme on dit, c'est encore une fois, c'est pas la gestion comme telle, mais en même temps, le rôle de la comptabilité des états financiers, c'est de donner de l'information sur la santé financière de la ville, les projets en cours, où on s'en va. Puis si ça, c'est pas, si les états financiers sont pas transparents puis ils transmettent pas de la bonne information, c'est difficile de bien gérer. Il y a quand même un lien entre la transparence, la clarté des états financiers, du système comptable de la ville, si vous voulez, puis sa gestion. Alors, avoir un EF, je pense, c'est pas une si bonne nouvelle.
Ben non, ça, pas vraiment. Ça paraît mal, en tout cas. Avoir un bulletin, là, recevoir une lettre pareille à l'école, je pense pas que ça existe. Hein? C'était A, B, C, D,
non,
E,
F,
peut-être?
Non, ça existe pour les échecs. Il y a échec à E, puis F, c'est gros échec.
Oh, gros échec pour F.
Ouais. C'est ça.
Faut y voir.
Par contre, on félicite Québec, qui est en première place canadienne, là, avec, je pense, c'est 3 ou 4 autres villes. Là,
alors, un F pour eux, félicitations.
C'est pas félicitations pour Montréal.
Non. Mais pour Québec, il y a eu un A moins.
A moins, c'est excellent. Là, c'est la meilleure note qu'ils ont octroyée. Là.
Bon, alors nous, on vous donne combien? Combien on donne à Michel pour aujourd'hui, Mathieu?
10 sur 10.
10 sur 10. Merci.
Vous êtes trop gentil.
Bonne journée et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.